18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je pense que le confinement, il va être national. C'est pas le couvre-feu qui va suffire. Mais s'il y a confinement, il faut qu'il soit accompagné par une politique de dépistage et une politique d'isolement.
Des chiffres de pire en pire. Les épidémiologistes estiment qu'on ne pourra pas échapper à un nouveau confinement. Mais sous quelle forme? Plusieurs pistes sont à l'étude.
Emmanuel Macron bouscule en tout cas son agenda en raison du contexte sanitaire et un nouveau conseil de défense se tiendra demain matin.
France-Turquie, l'escalade après l'appel au boycott des produits français. Recep Tayyip Erdogan compare la campagne de haine contre les musulmans dirigée selon lui par Emmanuel Macron à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale.
Et on verra dans ce journal comment réagit la communauté turque chez nous en France.
Au procès des attentats de janvier 2015, l'impossible interrogatoire aujourd'hui du principal accusé.
Et puis Proust, la nouvelle Madeleine du metteur en scène Christophe Honoré avec la troupe de la Comédie française.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en très forte baisse, moins 1,90% à 4816 points.
La tendance météo avec Anissa, bonsoir, et le retour de la pluie demain.
Bonsoir Julien, effectivement c'est à cause d'une perturbation assez active qui arrive demain par l'ouest. Au programme donc pluie, vent, neige et température en baisse. Bon, je vous rassure, certaines régions auront droit au soleil demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et cette question à la une donc ce soir, la France a-t-elle perdu le contrôle de l'épidémie?
Jusqu'à présent, les épidémiologistes et les médecins s'accordaient à dire que la situation était sous tension. Visiblement, Victor Delande en a encore franchi un cap.
Oui, plus de 52 000 cas de coronavirus enregistrés sur tout le territoire pour la seule journée d'hier. Et c'est la première fois qu'on passe cette barre symbolique des 50 000 contaminations en 24 heures. Un chiffre qui, selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy ce matin, est sous-évalué. On serait plutôt aux alentours de 100 000 cas quotidiens, selon lui. Et ces contaminations, vous le savez, ont une répercussion sur notre système de santé. En Île-de-France, 67% des lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid. À ce rythme-là, on sera au-dessus des 90% dès le week-end prochain. L'épidémie est hors de contrôle. Pour Jean Rottner, le président de la région Grand Est, il n'y a pas d'autre solution que le reconfinement.
On sent maintenant depuis quelques heures et quelques jours la situation se dégrader dans notre pays. Alors certes, des dispositions ont été prises, le couvre-feu, mais n'attendons pas les résultats de ce couvre-feu dans 10 jours ou 15 jours pour commencer à discuter à un éventuel reconfinement.
Et il veut justement pousser le gouvernement à ouvrir des discussions sur le sujet, ne pas prendre des décisions à la dernière minute sans concertation pour qu'une fois enfin, les politiques et les scientifiques accordent leur violon dans cette épidémie.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Et face à ce constat, on vient de l'entendre, de plus en plus de voix s'élèvent désormais en faveur d'un reconfinement.
Reconfiner comme l'ont fait les Irlandais ou les Gallois par exemple, ou bien avancer le couvre-feu nocturne. Quelle option le gouvernement va-t-il choisir? Plusieurs possibilités sont sur la table qui impacteraient plus ou moins la vie des Français et notre économie.
Et le président en tout cas bouscule son agenda, Adrien Beck, pour se consacrer aux réponses face à cette crise sanitaire.
Oui, demain après-midi, Emmanuel Macron aurait dû se rendre au Creusot pour parler nucléaire. Eh bien, il n'en sera rien. Et c'est assez rare pour être souligné, déplacement annulé. Le président bouscule son agenda en raison de la situation sanitaire, dit-on à l'Élysée, car le chef de l'État a regardé les chiffres épidémiques du week-end et ils sont catastrophiques, constate un de ses proches. Deux conseils de défense sont donc convoqués à l'Élysée. Le premier, demain matin, il s'agit de définir les scénarios possibles. Voici en gros la palette, avancer l'heure du couvre-feu, l'élargir au week-end, confiner localement. Autant de pistes qui seront évoquées demain après-midi avec les patrons de partis politiques reçus à Matignon, les associations d'élus aussi, les partenaires sociaux suivront demain soir. Il s'agit de concerter tout cela avant un nouveau conseil de défense mercredi matin pour arbitrer et donc arrêter les décisions. On avait prévu des clauses de revoyure à 15 jours. C'est dépassé, confie un collaborateur du Premier ministre, Jean Castex. Emmanuel Macron, désormais engagé dans une course de vitesse contre le virus pour éviter une redoutée catastrophe sanitaire.
Bien, merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et à noter qu'on en parlera également dans un petit quart d'heure avec notre invité, le professeur du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny, le professeur Stéphane Gaudry. Emmanuel Macron qui est par ailleurs très occupé sur un autre front en ce moment.
Oui, le chef de l'État face à l'hostilité, vous le savez, de la Turquie et de son président Recep Tayyip Erdogan. Le ton est encore monté d'un cran ce lundi. Le président turc, qui s'était déjà inquiété de la santé mentale d'Emmanuel Macron, a rejoint cette fois Jihan Bergaoui, ceux qui appellent à un boycott des produits français.
Absolument, ces appels au boycott lancés dans plusieurs pays du Moyen-Orient circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Et cette fois, c'est donc Recep Tayyip Erdogan en personne qui s'empare du sujet. À Ankara, il lance un appel ferme et sans ambiguïté au peuple turc.
Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas de marque turque ». Je m'adresse ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas.
Et puis dans ce discours virulent, le président turc compare le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Il accuse certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. Et il les appelle à dire stop à la campagne de haine qui est, selon lui, dirigée par Macron. Un appel resté sourd puisque les dirigeants européens condamnent les propos d'Erdogan. Pour la diplomatie allemande, il s'agit d'attaques diffamatoires et absolument pas acceptable. L'Italie et le Portugal viennent d'apporter à leur tour leur soutien au président français.
Les précisions de Jeanne Bergaoui pour Europe 1. On va vous retrouver maintenant Yasmina Katou. Vous vous trouvez auprès de la communauté turque de France. Comment réagit-elle, Yasmina, à ces mots et à ces attaques très virulentes du président Erdogan ?
Eh bien, elle n'est pas très bavarde. Ici, Turcs et Franco-Turcs préfèrent ne pas parler politique. Ils se sentent français, disent-ils, loin des conflits de leur pays d'origine. Mais au centre culturel turc, la guerre des mots entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan est au cœur des discussions. Demir Ranger est le président de l'association depuis maintenant 36 ans. Selon lui, les deux chefs d'État tentent de faire le buzz.
Les hommes d'État doivent parler avec un certain langage diplomatique. On peut dire la même chose de plusieurs manières. En se criant les uns sur les autres, en fin de compte, c'est plutôt pour l'opinion interne que des deux côtés ils sont en train de faire ça. En France, on oublie un peu Covid. En Turquie, on oublie la crise économique. Le peuple est un petit peu distrait avec ça.
Et pas d'inquiétude non plus du côté de Lütfi, venu boire un thé au centre. La France a besoin de la Turquie et inversement.
C'est une crise aiguë, passagère. Parce qu'il ne faut pas regarder la photographie donc, de jour J. Il faut regarder sur six siècles de relations entre la Turquie et la France. Il y a le haut et le bas, donc ce sont deux pays qui sont complémentaires et puis qui ont besoin des uns des autres.
Cette dispute franco-turque à celle d'un vieux couple, selon lui, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan ne sont pas prêts de divorcer.
Merci Yasmina Katou. Vous étiez donc dans le 10e arrondissement de Paris auprès de la communauté turque.
Et on y reviendra très largement sur ce débat et ses implications diplomatiques entre la France et la Turquie notamment à 19h15 dans le Club des Idées.
Et notez que c'était la rentrée scolaire aujourd'hui sur l'île de la Réunion, une semaine donc avant la métropole. Et ce matin, les élèves ont respecté une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous à suivre dans votre journal de 18h l'impossible audition d'un des principaux suspects du procès des attentats de 2015.
Et puis Marcel Proust au théâtre, mais version pop.
Aha.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal à 18h09 avec Isabelle Millet. La suite justement du procès des attentats de janvier 2015. On en parle maintenant devant la cour d'assises spéciale de Paris avec l'audition tendue de l'un des principaux accusés.
Oui, il s'appelle Ali Rizapola. Il est le seul accusé présent renvoyé pour complicité d'actes terroristes. Il connaissait Amedi Coulibaly et il apparaît à tous les stades de la préparation des attentats. Mais il a continué aujourd'hui, Gladys Laffitte, continué à nier farouchement sa culpabilité.
Oui, Ali Rizapola trépigne derrière la vitre de son box, s'énerve, hurle même, tape du poing. Je ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec le terrorisme. C'est dur à entendre, mais Coulibaly, c'était mon ami. Je ne vais pas lui donner des kalachnikovs pour qu'il se fasse tirer dessus. Il est accusé notamment d'avoir fourni des armes aux terroristes, ce qu'il conteste. Ses explications sont pourtant très laborieuses. C'est en fait un dialogue de sourds entre l'accusé et le président qui peine à obtenir des réponses claires. Comme par exemple, lorsqu'on lui demande pourquoi il tente de rejoindre la Syrie le 17 janvier 2015. Il se fera d'ailleurs refouler à la frontière. À Damas, rétorque Ali Rizapola, car il sait que Damas est en rupture diplomatique avec la France. Lui, qui ne cesse de se dépeindre comme un braqueur cupide, assure qu'il n'aurait pas tenu 30 minutes chez l'État islamique. Version confirmée par sa famille à la barre. Des Kurdes qui n'ont pas accepté sa conversion à l'islam. Son petit frère, beaucoup plus clair que son aîné, se fait son avocat. Vous dites que c'est le numéro 1 dans cette affaire. Moi, je vous dis qu'il n'était pas radicalisé, comme vous dites. Il était des trafiquants de drogue, faisait des magouilles pour avoir de l'argent, mais n'a jamais vendu d'armes.
Gladys Laffitte à la Cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1.
On en vient maintenant au procès en appel de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008, renvoyé à mai prochain en raison de l'état de santé de l'homme d'affaires.
Oui, qui souffre, on le sait, d'un double cancer et dont l'état s'est donc dégradé ces derniers jours. L'ancien ministre était apparu très affaibli il y a 15 jours à l'ouverture de ce procès. Michel Fourniret et son ex-épouse conduits une nouvelle fois aujourd'hui dans les Ardennes, sur les lieux où le tueur en série est accusé d'avoir séquestré et tué Estelle Mouzin. Après ses aveux, les enquêteurs espèrent qu'il leur livrera enfin cette fois l'endroit où se trouve le corps de la petite fille.
Encore une semaine, une dernière semaine de campagne aux États-Unis. C'est lundi prochain que les électeurs devront départager Joe Biden et Donald Trump, sachant que près de 60 millions d'Américains ont tout de même déjà voté.
Et on retrouvera à 19h comme tous les soirs le journal de campagne de Xavier Yvon. Les États-Unis où le Sénat à majorité républicaine doit confirmer ce soir la nomination à la Cour suprême de la magistrate Amy Coney Barrett, choisie bien sûr par Donald Trump. La Cour suprême, institution clé qui sera donc composée désormais de 6 juges conservateurs et de 3 progressistes.
Et on le rappelle, Isabelle, dispositif exceptionnel toute la semaine et la semaine prochaine pour suivre en direct du matin au soir le résultat de ces élections américaines. Et puis du théâtre, Marcel Proust, revisité par le metteur en scène Christophe Honoré au Théâtre Marigny à Paris.
Et c'est à ne pas manquer, paraît-il, hein, tant qu'on peut encore aller
au
théâtre.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
En tout cas, c'est une version revisitée du côté de Guermantes, du Proust, version pop. Diane Chenouda a assisté à l'une de ses représentations. My Lady
d'Abonville. La pièce commence par cette reprise de Cat Stevens, chantée par le jeune Marcel, qui est fasciné par la duchesse de Guermantes. Mais il va vite déchanter. Elle est aussi belle qu'insaisissable, cruelle et snob.
Avec ma cousine, il arrive la même chose qu'avec les auteurs constipés. Ils pondent tous les 15 ans une pièce en un acte ou un sonnet. Enfin, c'est ce qu'on appelle des petits chefs-d'œuvre, des riens qui sont des bijoux. Enfin, en un mot, la chose que j'ai de plus en horreur.
La vanité des salons mondains, la désillusion amoureuse, on est bien dans l'univers de Proust. Et on reconnaît aussi la patte du metteur en scène Christophe Honoré et son amour des chansons.
Le spectacle est assez musical, oui, mais parce que Proust est très musical. C'est vrai que j'ai plutôt été chercher des références dans les années 60, 70, pour que ce soit vraiment partagé, on va dire, qu'il y ait des effets de Madeleine, comme ça, pour le spectateur qui soudain reconnaît une chanson qu'il a déjà entendue.
Un spectacle drôle aussi, servi par l'excellente troupe de la Comédie Française, ici à son meilleur.
J'ai beaucoup aimé la modernité qu'il y a dans la mise en scène.
C'est une merveille, le jeu des acteurs, c'est assez remarquable. I loved you, my
lady. Though in your grave you lie. Le côté de Guermantes, donc adapté et mis en scène par Christophe Honoré avec la Comédie Française au
Allez-y
Théâtre Marigny.
Hein.
C'est jusqu'au 15
jours.
Novembre.
Non, je plaisante.
On sait pas encore, on va suivre ça.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info.